Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche du métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UFP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus par grand, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je dois forcément toucher, les jamais tombé en panne de pause. C'est tant que je pas toucher. C'est quand même curieux, non? 100 fois, j'ai dit, jamais, je n'ai pas touché.
Aujourd'hui, mercredi 29 décembre 2021, c'est la Saint-Bilan 2021. Saint-Bilan 2021 est le saint patron de ceux qui ont bien bossé cette année, qui sont bien satisfaits et qui aimeraient bien continuer. On avait à peine fini de ranger les manteaux quand les invités sont arrivés, que tout de suite, le cousin, l'autiste là, il a voulu en parler.
Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire.
Alors qu'on s'était bien mis d'accord pour pas en dire un mot, parce que ça allait lancer le tonton qui était déjà bourré.
Le pass sanitaire, il a été décidé le 12 septembre 2019.
En même temps, lui, il était chlasse dès l'apéro.
Premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et...
Bon, puis on a fini par se mettre à table en se concentrant sur la bouffe et en évitant les sujets qui fâchent.
Mais à un moment donné, bah, la France, c'est la France et le foie gras, c'est la France.
Quoique. Mais heureusement, il y a toujours des gens qui arrivent à mettre tout le monde d'accord.
La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration.
Et ça s'est plutôt bien passé entre la deuxième entrée.
Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages.
Et le trou normand qui a apaisé tout le monde.
Je suis plutôt quelqu'un d'affectif, mais qui le cache. Je suis plutôt quelqu'un de très humain. Je crois.
Ouais, le Beaujolais, ça le rend toujours un peu sentimental, mais ça nous a donné le courage, après, d'affronter la suite du repas. Bon, après, avec les huîtres, le papy, il a voulu la ramener.
Vous avez des, notamment chez les jeunes, qui ne savent pas se lever à 7h le matin.
Ben oui.
Qui ne savent pas se lever à 8h le matin. Qui ne savent pas arriver à l'heure au travail.
Qui devraient quand même être contents de ne pas être à la table avec les gosses, quoi.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
C'est feignant. heureusement qu'au moment du dessert et de la canonisation de Saint-Bilan 2021, il y a le beau-frère, il nous a bien fait marrer avec ses blagues.
Ça sera Bertrand au second tour. Ça sera Bertrand au second tour.
Ah putain, il nous a toujours fait marrer celui-là. Qui est con. Hein. Allez, santé. Hein. Aujourd'hui, mercredi 29 décembre, le soleil s'est levé. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Il s'est couché, je crache, je rote. Rien ne m'arrête, car aujourd'hui, c'est la fête. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche d'Hors de Campus, campusfil.com et le DAB+. Et ce soir, dans le désordre, vous retrouverez La Semaine à Cuba, un point sur la situation de Julian Assange par Victor Dédage, la chronique de notre camarade Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas, du son pris à Auchanronc la semaine dernière par Cédric de la CGT de Tourcoing, et également une série d'interviews faites par notre camarade Moussa Alem le 11 décembre lors de la journée organisée par le collectif Afrique, avec comme invité le comité Justice pour Adama. Et on vous donne également rendez-vous le 1er janvier à partir de 8h sur le 106,6 de Radio Campus pour une rétrospective des éphémérides. De l'heure de le mettre, bien sûr.
Françaises, Français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la 9e fois en 2 ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flow à moi est sans égal, à vous, tu kiffes mon son. Mais c'est fini, grand corps malade, maintenant c'est grand corps Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit. Pour vous dire la vérité, c'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet ! T'as cru que c'était la teuf ? Eh, hey, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une 3e injection s'impose pour vous sauver. Désormais, je vois la vie en dose. Refrain. Ouais, je suis le seul. On a mis un truc en anglais au milieu. Ça tombe bien. Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes. Ziva, t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok, mon quinquennat, il est parfait. Ouais, mon bilan, il est tip-top. Alors je ressors une à une mes antiennes ultra-libérales, tous ces trucs qui font qu'en une chaque matin libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur lito et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales EPR hors de prix. Dans les couloirs j'entends qu'on me surnomme l'Obi-Wan des lobbies. S'il se mettait à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'il me proposerait d'être leur réacteur en chef. Comme il paraît que pour gagner, faut séduire les chasseurs, j'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs. Pour les remettre au turbin, j'ai des idées à l'appel. Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL. Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux. Ne pas oublier en rentrant d'acheter 2 douzaines de 3 briques de lait pour faire des crêpes et 2 mottes de beurre. Attendez, c'est qui l'abruti qui a écrit ça sur mon prompteur? Refrain, refrain. Comme... Ouais, mais si tu mets ta liste de courses sur mon prompteur, ce... Ouais, mais comment tu veux que je fasse mon alloc, là mon a... Non, pas mon allocation, mon allocution. Merci, Brigitte. Faut arrêter les allocs. L'assistanat moyenâgeux. Hors de question que ma politique finance la française dégueu. Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire. En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires. Mais j'ai du cœur. Ouais, j'ai décidé de battre en retraite, de laisser à mon successeur la réforme des retraites. Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée, j'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder. Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Élysée, on vous donne des sondages à lire, eh ben, vous les lisez. À gauche, ils sont 10 000. À droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes deux mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, il y a élection. Et que même si je ne suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites, il commence à être lourd. Alors je vous laisse, je vais prendre mes pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, à demain. Et Gabriel Attal.
Radio Campus Lille, 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Eva Loumanicha, vous êtes membre du collectif Afrique. Pourquoi avoir invité Assa Traoré ?
On l'a invité Assa Traoré pour deux raisons. La première, c'est que au niveau des Hauts-de-France ici, nous avons déjà eu des cas comme ça. Et dans plusieurs des cas qu'on a eu, et dont le dernier dont j'ai parlé ici, avec Sidney Makouma qui a été tué dans un quart de police au moment où il était amené à la police, les parents s'étaient désistés à la demande à l'époque du ministre de l'Intérieur. Et nous avons de nombreux cas comme ça où, au lieu de s'organiser, les familles avaient décidé en fait de retirer leur plainte sous la pression du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la première raison. C'est pour dire aux familles que seules les luttes non menées sont perdues à l'avance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble importante aujourd'hui, c'est de dire que la victoire d'Assa aujourd'hui est absolument importante pour la suite de la lutte, en fait, en disant que le racisme ici, c'est un racisme structurel, c'est un racisme d'État, et nous l'assumons. Nous avons déjà publié plusieurs textes à ce sujet. Donc voilà un peu, en deux mots, l'objectif pour lequel le collectif Afrique a convoqué cette réunion dont on a discuté depuis longtemps, en fait, au collectif Afrique.
On a entendu dans la salle beaucoup rappeler que ce n'est pas la seule lutte, qu'il y a beaucoup d'autres luttes qui sont liées, les sans-papiers, celles et ceux qui luttent syndicalement, notamment les grévistes de la société honnête. Vous aussi, vous élargissez vos luttes à cela aussi.
C'est vrai qu'il y a plusieurs luttes. À un moment donné, il faut savoir par quel levier il faut aller pour pouvoir, en fait, obtenir la convergence de lutte dont nous avons besoin. Nous pensons que nous avons affaire véritablement à un système qui ne marche pas.
Saïd Bouamama, sociologue qui était présent, parle de destin commun, c'est ça ?
Absolument, ça signifie que nous vivons dans une société où en fait les gens qui dirigent ont une politique cohérente. Par exemple aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe avec le curseur qui est totalement déplacé à l'extrême droite. Donc en fait, ils veulent amener les Français à se battre entre eux sous prétexte qu'il y a un ennemi intérieur qui serait je ne sais quel... À partir de ce moment, nous avons besoin en fait de la convergence de lutte pour, en fait, ce que Saïd disait, c'est pour nous attaquer en fait à la racine de la chose.
Il a même été évoqué le fait que ça se passe ici mais aussi ailleurs, c'est-à-dire que le rapport à l'Afrique de la France, il parle aussi du rapport aux populations africaines et des quartiers populaires en particulier ici en France.
En fait, la France est une puissance économique moyenne dans le monde. Et sans l'Afrique, la France ne vaut absolument rien. La France est une puissance colonisatrice pour 17 pays africains. Et actuellement, toutes les économies africaines sont contrôlées par la France. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, en réalité, c'est un système entretenu. Ils détruisent consciemment les économies africaines et obligent les jeunes africains à venir ici pour être traités ici comme des esclaves. Donc ça se voit que c'est le même système, en fait, qui détruit les économies en Afrique et qui crée des situations comme celles qu'on vit, même ici, même en France. 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça signifie, c'est un système, en fait, qui crée sciemment cette situation et qui oppose, en fait, les populations entre elles. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre, en fait.
C'est ça, en fait, le libéralisme. Vous venez d'en donner la définition.
C'est, en fait, quand on parle de la mondialisation capitaliste, c'est cela. La réalité, c'est ça le libéralisme. Est-ce que c'est ça le système que nous voulons ou pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous dit que la France est de droite. Est-ce que la France peut être de droite alors que le pays est immensément riche et qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans ce pays ? Il y a un problème. Donc, c'est que les gens doivent comprendre que lorsque nous entrons dans une période comme celle-ci, dans une période de campagne, Il faut que les gens sachent que la lutte que nous menons pour l'avenir concerne, en fait, c'est une lutte de système, en fait, du système. Est-ce que nous sommes d'accord de vivre dans un système comme celui-ci, qui est véritablement discriminatoire, et où, en fait, lorsqu'on voit tous les médias sont contrôlés pratiquement par tous les capitalistes qu'on connaît.
Pas le nôtre. Donc,
lorsque, aujourd'hui, par exemple, Éric Zemmour, on sait très bien que c'est Bolloré lui-même qui l'a mis à CNews et qui l'a soutenu, en fait.
Et qui pille les Africains,
et qui pille les Africains. Oui, mais Bolloré, il a pris, en fait, tous les ports africains, c'est celui qui ont été bradés par les chefs de l'État pour qu'ils le soutiennent, et en même temps, il pratique les racismes ici contre les ressortissants de pays qui lui ont donné les ports, les aéroports, etc., etc.
Donc en clair, on ne peut pas compter sur les pays d'origine pour cette lutte ?
Non, pas du tout, pas du tout. Ce ne sont pas des pays d'origine, ce ne sont même pas des chefs d'État, ce sont des ports consuls que la France a placés pour pouvoir continuer à exploiter. Au Congo, il y a en fait 7 minerais stratégiques qui sont nécessaires, en fait, dont tout le monde entier a besoin. Aujourd'hui, le président de la République qui est là-bas, c'est un président, en fait, qui a été placé, soutenu par la France, parce que justement la France a besoin de contrôler, en fait, tous les minerais dont il a besoin dans la bataille qui va s'engager aujourd'hui pour la batterie, pour la fabrication des vaisseaux, etc., etc.
S'il y a un nouveau président en France ou une présidente, ça va peut-être changer dans quelques mois, non ?
Non, ça ne changera pas. Ça changera seulement si, en fait, les batailles que nous menons ici, c'est-à-dire les Africains, s'organisent pour entrer dans la campagne et dire que nous demandons à nos enfants, comme les Assa Traoré, en fait, les générations de jeunes Français issus de l'immigration, qui sont présents, en disant que nous ne voterons que pour le candidat qui nous dise exactement quelle est sa politique africaine pour l'avenir de l'Afrique. Bon, si les gens veulent continuer comme ça a été le cas depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, à quoi bon de voter pour ces gens-là ?
Valérie Bondu, vous êtes la maman de Mathis, décédé, comme vous l'avez expliqué dans le débat.
En fait, il a été poursuivi par la police pour un contrôle de police abusif, un délit de faciès. Et en fait, il a été happé par un TER en échappant parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de voir des policiers armés courir vers lui et ses amis. Donc, son seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'était de monter sur une grille, de ramper à quatre pattes sur un mur, d'enjamber un grillage qui n'était pas sécurisé et... Quand ils ont couru le long des rails, il y a un TER qui avait 5 minutes de retard qui les a happés.
Où en est l'affaire aujourd'hui ?
L'affaire a été classée en mars 2021. J'ai dû attendre 6 mois parce que ma chère avocate, Maître Yankevitz, qui fait un travail exceptionnel et je tiens à la remercier, m'a dit qu'il faut attendre 6 mois pour pouvoir refaire appel et aller redéposer 300 euros de frais de dossier. Là, elle a relancé depuis quelques semaines le doyen des juges. Elle m'a annoncé hier en fait qu'il avait désigné un nouveau juge d'instruction. Et j'espère de tout mon cœur qu'on aura un autre procureur. On ne lâchera pas, je ne lâcherai pas, je ferai appel à tous les recours.
C'était votre fils unique, avez-vous dit. Vous êtes intervenu avec Assa Traoré. Doit-on comprendre que les violences policières ne concernent pas que les Noirs et les Arabes, elles concernent tout le monde finalement ?
En fait, mon fils était métis. Il était franco-tunisien, mais français. Il adorait la France. Il adorait la Tunisie parce qu'il aimait aussi les grands-parents qui vivaient là-bas. Et en fait, mon fils suivait des cours au lycée Baggio. Il faisait un bac pro pour être web designer et concepteur producteur photo. Et il m'avait dit, « Maman, si j'ai pas mon bac pro, je m'engagerai dans la marine et je ferai le concours du RAID. » Parce qu'en fait, Mathis était très sensibilisé par rapport aux attentats qu'il y avait eu à Paris. Bataclan, Charlie Hebdo, enfin tous les attentats qu'il y avait pas, l'école aussi dans le sud. Et il avait dit, « Moi, mon but, maman, c'est de protéger les innocents, de personnes qui, au nom d'extrémisme, quel qu'il soit, tuent. » J'ai découvert, quand il est décédé, quand j'ai déménagé, un dossier de la marine. Il était vraiment convaincu de vouloir rentrer dans la marine. Et j'ai regardé un message de lui. Quand il y avait les attentats de Charlie Hebdo, il y avait eu 2 policiers qui avaient été tués dans la rue. Et il avait envoyé un message à la police nationale en disant « Vous avez tout mon soutien et de tout mon cœur. » Et c'est la police qui l'a mené à la mort. Donc je ne lâche pas l'affaire. C'est une histoire très trouble. Je le dis bien, très trouble. Parce que c'est une affaire qui, pour moi, a été bâclée. Pas par mes avocats, parce que mes avocats, on a découvert des choses que personne n'avait vues. 3 juges d'instruction qui se succèdent et personne ne voit les incohérences du dossier. Et c'est moi, une maman, en lisant l'instruction pendant des après-midi et des journées complètes, qui suis tombée sur des choses que même un juge n'avait pas vues. Donc, comment faire confiance à la justice après ? On ne peut pas. Surtout quand en plus, on vous dit que votre fils a pris le chemin de son plein gré. Mais il faut être réaliste. Des enfants, ils ne vont pas aller se suicider sur une voie ferrée. Des enfants, ils vont fuir parce qu'ils ont peur. parce qu'ils sont justement menacés peut-être de se prendre une balle, coup de matraque, clé ventrale ou un tir de LBD comme les gilets jaunes, comme les manifestants. Donc je pense qu'il a eu peur et moi je suis comme lui. C'est-à-dire que quand je fais les manifs, parce que je suis quelqu'un de très engagé pour les manifs, manifestations, ben, pas sanitaires, la loi de sécurité globale, je l'ai fait, la loi des retraites, parce que moi je suis syndiquée, quand je les vois foncer, les Goldorak comme je les appelle, je cours.
Assa Traoré, merci de nous accorder cet entretien. Premièrement, où en est-on de l'affaire de votre frère ?
Nous sommes aujourd'hui dans une guerre d'expertise. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une injustice totale de la part de la justice française. Juste pour revenir sur les faits, mais pas très loin, mais seulement en 2020. On rappelle les deux marches que nous avons faites sur Paris, qui sont devenues aujourd'hui des marches historiques en France, où on était plus de 100 000 dans la rue. C'est un appel qui se fait quand la justice française veut fermer le dossier de mon petit frère Assa Traoré et veut conclure sa mort en disant qu'il est mort de chaleur. Nous allons sortir dans la rue. Nous allons faire annuler cette expertise en octobre 2020. La justice française va demander une expertise à l'étranger, à des experts belges, parce qu'il faut savoir qu'en France, plus aucun expert ne veut prendre l'affaire Assa Traoré, parce que nous portons plainte à chaque fois, et ce sont à chaque fois des expertises bidons. En parallèle, nous allons faire une expertise internationale avec notre avocat, Maître Yacine Bouzrou, où nous allons prendre l'expert de George Floyd à New York, un Brésilien, un Italien, 4 Français, un Allemand. Et ces expertises vont sortir en janvier 2021. En janvier 2021, les expertises des Belges vont dire que les gendarmes sont responsables. Les expertises indépendantes que nous avons faites vont également dire que les gendarmes sont responsables. Donc normalement, la justice aurait dû mettre les gendarmes en examen. 7 mois après, en juillet, la juge va demander une nouvelle expertise où elle va se baser sur un arrêt maladie d'Adama de 2014, 2 ans avant sa mort, 10 ans avec cet arrêt maladie. Est-ce que les experts belges vont changer d'avis ? Et elle demande un retour sur cette expertise le 31 août 2021. Pas de retour de cette expertise. Elle ne veut pas qu'on ait accès au dossier. En septembre 2021, je porte plainte contre la juge parce qu'elle veut, elle refuse que j'ai accès au dossier de mon frère. La plainte est recevable, donc il y aura un procès. Et nous apprenons qu'un des experts belges est mort. Suite à ça, donc il y avait 4 experts, suite à ça, elle demande une nouvelle expertise. Donc chose complètement hilarante. Et c'est pour ça qu'on parle de déni de justice de la France. Quand une expertise dit que les gendarmes sont responsables, ils ne veulent pas. Ils veulent demander une autre expertise. Il suffit qu'il y ait un mort sur les 4, on demande une nouvelle expertise. Donc aujourd'hui, elle demande une nouvelle expertise pour le 15 février 2022.
Vous parlez de justice à l'instant. Le fait qu'un nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour ne pas le nommer, ait été nommé par Emmanuel Macron, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas ? Lorsqu'il a été nommé, vous ne vous êtes pas dit « bah tiens, il est médiatique, il est connu, c'est un grand avocat ». On va voir avec lui si c'est possible de sortir par le haut dans cette affaire.
J'ai pas basé mes espérances sur lui. On se dit pourquoi pas, au vu de son en tant qu'avocat dans les affaires de violence policière. Depuis qu'il est là, l'affaire Assa Traoré est toujours au point mort.
C'est à partir du moment où cette affaire a été connue de l'étranger que finalement on a plutôt regardé un peu plus cette affaire en France. Le fait d'internationaliser cette affaire, est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus ou pas ?
Bien sûr, aujourd'hui, dès que la lumière et le soutien viennent de n'importe où, bien évidemment, on va le prendre. Aujourd'hui, l'affaire Assa Traoré est devenue un symbole des violences policières en France. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui est connue du monde entier. Et le monde entier regarde le comportement de la France. Quand je fais la une du Time, c'est pas juste Assa Traoré qui fait la une du Time, c'est le monde entier qui regarde ce qui se passe en France sur la mort d'Assa Traoré, sur les violences, sur les discriminations, sur les inégalités qu'on peut avoir. Donc oui, là, aujourd'hui, je suis dans un pays où la France va complètement dénigrer le combat, comme si demander la vérité et la justice pour Adama était un crime, où je vais me faire insulter, où on va appeler au meurtre sur ma personne, on va appeler au viol sur ma personne, où je me fais interpeller, insulter sur des propos racistes toute la journée sur des plateformes et sur la télé. Mais c'est une partie de la France, parce que la vraie France, c'est quand on sort dans la rue et quand on est plus de 100 000 dehors. Ça, c'est le peuple français et c'est nous. On ne va pas leur laisser cette France qu'ils veulent assombrir. Et quand le soutien vient de l'extérieur, donc oui, ça donne de la puissance, ça donne de la force. Et le monde entier aujourd'hui regarde la France avec leur comportement discriminatoire.
Assa Traoré, on est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une porte qui peut s'ouvrir par rapport à un ou une candidate pour les présidentielles ? pour justement que le combat que vous menez soit reconnu.
Vous savez, mon frère, quand il va mourir, c'était sous François Hollande, on a connu Macron, il n'y a eu aucun changement et ça va de mal en pire. Donc aujourd'hui, mon espoir et mon espérance, je ne le porte pas sur les présidentielles, je ne participe pas au débat présidentiel parce que la force c'est nous, le peuple c'est nous. Et aujourd'hui, le combat, si j'en suis là 5 ans après, ce n'est pas le président actuel qui a changé la situation sur laquelle était avant, mais seulement comment le comité Adama a mené le combat, comment elle a su fédérer et créer de la solidarité avec d'autres luttes, d'autres collectifs, et comment le peuple, en tout cas, s'est mis à côté de nous, autour de nous. Et en fait, c'est nous la vraie force. Et c'est nous qui, un président, on se battra pour qu'il n'y ait pas le pire des présidents. Mais la force est nous.
Vous venez justement de parler d'autres luttes, Assa Traoré. Comment on fait pour articuler et élargir? Vous parlez de discrimination tout à l'heure. Il y a l'islamophobie aussi. Comment vous avez fait ou comment vous allez faire pour articuler avec les autres luttes et pourquoi pas parler de convergence?
C'est déjà fait. Je reviens sur les marches du mois de juin. La même question que tous les journalistes vont nous poser, mais comment vous avez fait pour réunir tout ce monde de tout horizon, des quartiers, des centres-villes, de toute lutte? Je leur ai dit, c'est 4 ans de combat, c'est 4 ans de lutte, 4 ans où le comité Adama, où on s'est déplacé à chaque fois, écrit de la solidarité, des alliances avec tous ces collectifs, toutes les formes de discrimination, quand on va avec les sans-papiers, quand on va avec les étudiants, quand on va vers les femmes qui subissent de la violence conjugale, quand on va vers les associations, on fait des tournées de quartier, et j'en oublie, hein. On va à chaque fois, parce que moi je pars du principe que quand je demande la vérité, la justice pour Adama, pour mon petit frère, et que je dis aujourd'hui, tout le monde a le droit de participer à la construction de ce monde, de cette France, elle ne peut pas se faire juste avec la justice de mon frère, mais elle se fait en combattant toutes les formes d'injustice. Donc oui, avec le comité Adama, on décide pour pouvoir participer à la construction de ce monde, de cette France, de sa propre vie, on ne peut pas demander justice que pour nous et regarder les autres comme si de rien n'était. Donc à chaque fois, on va aller avec les étudiants, on va aller avec les sans-papiers, on va aller avec les écolos, on va aller avec tout le monde. On va créer de la solidarité parce que c'est leur combat. On ne va pas dénaturer leur lutte, mais surtout être un soutien et ça va payer parce qu'aujourd'hui, quand on sort dans la rue, on est plus de 100 000 et on continue. Et la preuve, aujourd'hui, on est encore là à Lille avec les FQP, les sans-papiers, avec d'autres collectifs. Et c'est ça le combat.
Pour conclure, ce sera la dernière question, un peu plus personnelle si vous me le permettez. Vous avez beaucoup parlé d'Adama en disant mon petit frère. Je sais qu'il y a la famille tout autour et la famille qui a morflé aussi, parce qu'il y a eu des gardes à vue, etc. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est compliqué? Parfois, il y a des hauts, il y a des bas. Comment ça se passe en famille?
J'ai envie de dire que si aujourd'hui on est là, c'est que pour moi, j'ai la meilleure des familles. Hein. Dans le livre Lettres à Adama, je cite une phrase de mon père qui dit « S'il arrive quoi que ce soit à l'un d'entre vous, il faut que chacun soit là les uns et pour les autres. » Et c'est ce qui se passe. Pour moi, on est un socle, on est un bloc. Quand on touche à l'un, on touche à l'autre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on arrive en tout cas et on se lève. Qu'on est là 5 ans après, tous ensemble, main dans la main. Samir Dumib, qui fait partie du comité Adama, qui a milité avant, dit que c'est la première fois que... En tout cas, de son expérience, qu'on voit qu'on s'attaque à une famille. D'habitude, on s'attaque à des militants. Et là, on s'attaque à une famille, on s'attaque à une sœur, on s'attaque à tous les frères, on enferme tout le monde. Mais le combat, il tient. Le combat, on le porte. Et c'est surtout quand on enferme mes frères, c'est pas pour rien. On enferme la voix des hommes noirs parce qu'on leur a enlevé la voix depuis trop longtemps. On leur dit taisez-vous, ne luttez pas, ne réclamez rien. Et sinon, on vous met en prison. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais on s'est battu avec honneur et dignité. J'ai dit à mes frères, vous sortirez de prison avec dignité. Mon frère a été acquitté au mois de juillet, où il y a 92 gendarmes menteurs qui vont venir mentir et salir son nom, des gendarmes qui ont participé, qui ont eu un rôle dans la mort d'Adama. Il a été acquitté, il est sorti la tête haute. Donc oui, on s'est attaqué à ma famille, mais on s'attaque aussi à des hommes qu'on veut faire taire depuis très longtemps. La preuve, on a tué mon petit frère.
Ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens. Bien dommage.
dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Il y a de la chance. Mais c'est la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Echaïla yagen sport, football tesis nam l'amour. Mais il a isman safar, azran la différence. Azran la différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de ruminance. Après tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence.
Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance.
C'est un trou de l'aïti. Je découle ta mort et ce je rappelle ta fille et ce fric. Et de m'en aimer, je t'avance.
Jusqu'à la fin de l'existence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence.
Radio Campus.
Quoi, la CGT?
Oui.
Tu sais ce que c'est la CGT?
Non, qu'est-ce que c'est la CGT?
Qu'est-ce que c'est la CGT?
106,6.
Et donc nous avons des revendications sur les conditions de travail et surtout les salaires. Donc tout se dégrade. Sauf les dividendes des actionnaires. Ces actionnaires qui font des montages financiers pour échapper à un impôt, qui même plus encore, ont bénéficié de 500 millions d'euros de crédit d'impôt. Pour l'entreprise Auchan et qui en fait n'ont embauché personne, ont enchaîné justement les plans de ce qu'ils appellent les PSE. Hein. Donc ils appellent ça des plans de départ volontaire, mais c'est des départs un peu contraints. Et donc si vous voulez, ça complexifie la difficulté des travailleurs au quotidien. Et donc le travailleur se retrouve usé. Et soit il abandonne, il y a des burn-out, bon. Après, avec toutes les conséquences qu'on connaît, sociales, et donc des familles éclatées, bon. Toutes les conséquences, tous les problèmes qui peuvent rentrer dans le foyer. Et donc on est là pour aujourd'hui, par valeur de droit.
Noël, hein? Un témoignage du papa Noël.
Ah ouais, témoignage. Simplement, on est payé comme ça. Regarde, tu vois, ça c'est notre salaire qu'on va faire avec la clientèle.
Ah, c'est grave.
Et aujourd'hui, les conditions de travail, mais règnent, ils ont des meilleures conditions de travail que les salariés d'Auchan.
D'accord.
Voilà.
Donc vive les luttes à Auchan.
Hein?
Vive les luttes à Auchan.
Ouais. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, messieurs, dames. Joyeux Noël à vous.
Merci.
Oh, 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 gamin. Bonjour, gamin. Ça va? Vous connaissez Père Noël?
Il n'est pas anodine. Donc il y a une volonté, d'accord, de ceux qui poussent l'outil de travail, donc des milliardaires, qui veulent nous imposer des faux débats dans la société pendant la présidentielle. Ils parlent de tout, sauf des conditions des travailleurs, sauf de la condition sociale qui, en fait, ils veulent casser le pacte social qui a été gagné par la classe ouvrière pendant le Conseil national de la résistance. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec notre histoire en tant que prolétaires. Tous les gens qui possèdent l'outil de travail savent très bien que dans les conditions qu'ils imposent aux travailleurs, c'est de la torture psychologique, c'est de la souffrance physique, et qui parfois, même éclatent le foyer. Il y a des gens qui donnent leur vie au travail, et nous, on est pour l'idée que le travailleur doit travailler pour vivre, et pas vivre pour le travail. Et donc c'est une question qui est fondamentale dans la condition de l'homme, depuis la nuit des temps, c'est une question anthropologique, et les contradictions qu'on rencontre au travail, les divisions qu'on doit faire aujourd'hui dans le relais politique, c'est les mêmes méthodes managériales qui visent à diviser la classe ouvrière. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en garde les camarades, c'est-à-dire que, au moment en période de crise, où la bourgeoisie tente de reconquérir tout ce que la classe ouvrière a gagné, ils veulent nous imposer le fascisme, l'extrême droite, et si on est dans une période de fascisation, c'est pour empêcher la classe ouvrière de s'unir pour gagner ce qu'ils veulent nous voler. Et aujourd'hui, si on s'organise, et si on se positionne en tant que prolétaire face à la classe dominante qui est incarnée par la bourgeoisie, Macron et tous les valets de la petite bourgeoisie politique, nous pouvons gagner et nous pouvons même aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, je vous dis, du pognon, il n'y en a jamais eu autant, ils se partagent entre eux, ils détricotent l'hôpital public. C'est dans l'intérêt général tout ce qui se passe. Le combat ici, c'est un combat aussi pour le combat public, les hôpitaux, les professeurs, la sécurité, tout est lié. Tout est lié et les conséquences que les milliards qu'on nous impose aujourd'hui, ça génère de la violence sociale et des mauvais comportements, des fléaux. Et aujourd'hui, plutôt que de pointer les causes, ils pointent les conséquences et ne pas tomber dans le panneau, les gars. Voilà les camarades.
Bravo.
Chers clients, aujourd'hui, si les salariés de Champs sont réunis, c'est pour crier, c'est un cri de désespoir. Le partage des richesses si Auchan n'existe pas. Quand l'actionnaire principal s'octroie 750 millions de dividendes et dans le même temps distribue à son personnel une augmentation de 2,2%, c'est un vrai déni social. Alors certes, nous avons un travail, certes, nous avons été les héros du quotidien à vous apporter du service, à remplir les rayons pendant cette crise sanitaire d'un an et demi que nous avons tous subi. Sauf à dire qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que l'entreprise se gargarise de dire qu'elle est proche de son personnel. Elle n'en fait pas dans la démonstration dans les salaires, puisque nous sommes perfusés par le SMIC. Nous avons des salaires qui riment avec misère. Nous avons des salaires qui sont perfusés par le SMIC horaire. Alors nous disons stop, nous en avons assez. Non pas assez de vous servir, puisque c'est un vrai honneur d'apporter un service à la clientèle, mais assez d'être exploité. Et aujourd'hui, les salariés sont en colère face à ce dictat de l'actionnaire qui en veut toujours plus pour payer toujours moins.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à la face de la société. En blé, on va pas se faire emmerder, non? Mon père est mort à la guerre, mon frère se tue au travail, et les salauds s'en moquent bien. Que l'on crève comme les chiens, les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon et ils nous aident pour faire ripaille, les copains de notre travail, les salauds, oui mais un jour on sera fort et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leur poing pour foutre sur la gueule des rupins, des salauds. Alors il renvoyeurs police. Mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule. Et on va leur faire bouffer leur képi. Parce que s'il y en a qui a m'emmerder, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Ah merde, on va pas se faire emmerder par les flics, hein.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, la tenue du sommet pour la démocratie, les 9 et 10 décembre derniers, sous l'égide du président états-unien Joe Biden et sa couverture médiatique. Ensuite, la victoire des paysans indiens, passée entièrement sous silence par la totalité de nos grands médias. Comme il l'avait annoncé au moment de son élection, Joe Biden a réuni un pseudo-sommet de la démocratie ces 9 et 10 décembre en visioconférence. Plus de 100 dirigeants de la planète et des dizaines de représentants d'ONG et de grandes entreprises se sont ainsi réunis pour, disent-ils, défendre les droits de l'homme et promouvoir la démocratie. Sans surprise, la Chine et la Russie n'étaient pas invités, alors que Taïwan et le Brésil l'étaient. L'invitation de Taïwan est bien sûr une provocation contre la Chine populaire, reconnue par les Nations Unies comme la seule représentante de la Chine. L'invitation de l'opposant vénézuélien Guaido, délégitimé par les urnes dans son propre pays, en est une autre à l'égard du gouvernement vénézuélien, qui a emporté lors des élections régionales de novembre dernier 20 postes de gouverneur sur 23, ainsi que la mairie de Caracas. Si la plupart des grands médias, en rendant compte de ce sommet de la pseudo-démocratie, ont tenu un discours critique sur certains participants, peu d'entre eux n'ont en revanche visibilisé les objectifs réels de ce sommet, pourtant évidents, dans les discours d'ouverture et de fermeture du sommet de Joe Biden, comme d'ailleurs dans les interventions des chefs d'État des autres puissances de l'OTAN. Ainsi, dans son discours d'ouverture, Joe Biden déclare, je cite, « La démocratie a besoin de champions. Elle ne connaît pas de frontières. Elle parle toutes les langues. Les États-Unis se tiendront aux côtés de ceux qui permettent à leur peuple de respirer librement et n'asphyxient pas leur population. » Fin de citation. Les États-Unis s'estiment ainsi légitimes pour définir qui est un pays démocratique et qui ne l'est pas. Ils s'estiment également autorisés à intervenir dans les affaires intérieures d'un État qu'il aura seul défini comme étant autocrate et pour défendre ceux qu'il aura lui-même défini comme démocrate. Avec une telle prétention, les Nations Unies sont réduites au mieux à une chambre d'enregistrement des décisions prises ailleurs et au pire à une instance inutile que l'on peut se passer de saisir. Dans un langage moins diplomatique, c'est-à-dire moins euphémisé, les objectifs qu'énonce Biden peuvent se traduire comme suit. Nous continuerons encore plus que par le passé, à nous ingérer dans les affaires intérieures d'États souverains. Nous continuerons à financer encore plus des oppositions et des médias dits libres. Nous continuerons à exercer des sanctions illégales, des blocus et des embargos à l'égard de ceux qui s'opposent à nos prétentions hégémoniques. Les véritables objectifs de ce sommet sont encore plus explicites dans le rapport intitulé « Lier valeurs et stratégies », publié par l'organisation dénommée Alliance pour sécuriser la démocratie, composée de démocrates et de républicains, en octobre 2020. Ce rapport sur lequel s'est appuyé Biden pour convoquer ce sommet précise, je cite, « L'objectif d'une nouvelle Ligue des démocraties couvrirait des aspects militaires, la lutte contre le terrorisme et un effort commun pour prendre l'avantage sur les questions technologiques qui déterminent désormais de plus en plus le rapport de force internationale. » Les choses sont donc claires. Il s'agit ni plus ni moins que d'installer une logique de nouvelle guerre froide. Ce sommet s'inscrit en outre dans un contexte caractérisé par la décision états-unienne de boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022, par la montée des tensions à la frontière ukrainienne, par la modernisation et l'agrandissement des bases militaires états-uniennes sur l'île de Guam et en Australie. Les mêmes États-Unis exigent l'extradition de Julian Assange pour pouvoir l'emprisonner à vie. Comme le souligne Daniel Ellsberg, un lanceur d'alerte de la guerre du Vietnam, je cite « Comment Biden ose-t-il faire la leçon lors de son sommet pour la démocratie aujourd'hui, tout en refusant de gracier le fondateur de Wikileaks, dont le seul crime est d'avoir alerté sur les pratiques de l'armée états-unienne en Afghanistan et en Irak ?» La réponse à cette question pertinente se résume en un mot que n'utilisent bien entendu pas les journalistes des grands médias ayant relaté le sommet. Ce mot, c'est le mot « impérialisme ». Depuis novembre 2020, une révolte paysanne regroupant des centaines de milliers de participants s'est mobilisée contre la loi de libéralisation de l'agriculture en Inde. Pendant plus d'un an, ces centaines de milliers de paysans, venus des États du Punjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, ont encerclé la capitale pour exiger le retrait de trois lois ouvrant entièrement le marché indien aux multinationales de l'agroalimentaire. La première loi, dite de promotion et de facilitation du commerce et de l'échange des produits agricoles, vise à supprimer les mandis, qui sont des marchés garantissant des prix planchers aux vendeurs. La deuxième loi, dite d'accord sur les prix, vise à renforcer le poids des mastodontes de l'agroalimentaire au prétexte de moderniser le secteur agricole. La troisième loi, dite d'amendement sur les produits essentiels, a pour objectif de retirer de la liste des produits soumis à une réglementation publique des produits aussi essentiels pour les masses populaires que par exemple la pomme de terre ou l'huile. Le plus important mouvement social du siècle a tout simplement été passé sous silence par la quasi-totalité des grands médias européens. Après plus d'un an de lutte, le mouvement paysan est victorieux. Le gouvernement d'ultra-droite indien, ayant été contraint devant le rapport de force, a abandonné ces trois lois. La victoire paysanne a été chèrement payée. On compte en effet plus de 650 morts tués au cours des manifestations. Le silence médiatique a été une nouvelle fois complet sur cette victoire, comme sur son coup de main. Mais il ne s'agit pas que de passer, car les paysans mobilisés refusent de cesser leur encerclement de la capitale pour obtenir la satisfaction d'une autre revendication à l'origine de leur colère. Ils exigent en effet l'instauration d'un prix de soutien minimum pour leurs produits. Sur la poursuite du mouvement, le silence médiatique était de nouveau total. Taire une telle information, c'est de fait contribuer à diffuser l'idée que la logique libérale et la dérégulation généralisée sont les seules politiques possibles aujourd'hui. C'est contribuer au développement d'un sentiment d'impuissance devant les dégâts de cette politique libérale. En taisant un tel mouvement social et une telle victoire, les grands médias accréditent l'idée que certes, la libéralisation a des conséquences négatives, mais qu'elle est la seule politique rationnelle envisageable. Cette idée n'est rien d'autre que la poursuite de la théorie de la fin de l'histoire. Cette théorie états-unienne de l'idéologue d'État Fukuyama concluait en effet de la disparition de l'URSS que l'ultralibéralisme était certes imparfait, mais qu'il constituait la seule politique économique viable.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Alors, Assange, le procès a eu lieu en octobre de l'année dernière et le jugement a été rendu donc début janvier par la mystérieuse Vanessa Baretzer, qui n'était qu'une stagiaire ou un officier civil, n'était pas vraiment une juge, qui a été promue depuis. Et en guise de rappel, donc, elle a donné raison aux Américains et à toutes les accusations. Et quand je dis qu'elle a donné raison à toutes les accusations, il faut être très précis et rappeler sans cesse qu'ici nous sommes en présence d'un procès en extradition. Il ne s'agit pas pour la Grande-Bretagne de déterminer si Julian Assange est coupable des accusations, mais simplement de déterminer si le dossier américain permet de l'extrader pour qu'il soit justement jugé pour ses accusations aux États-Unis. Donc on est là un petit peu dans un domaine qui n'est pas tout à fait celui que tout le monde espère, en se disant on va prouver son innocence, puisque ce n'est pas le but du processus. C'est juste de décider s'il peut être extradé et si le dossier américain est suffisamment chargé, suffisamment légitime pour procéder à son extradition. De ce point de vue-là, la mauvaise nouvelle est que Vanessa Baretzer a donné raison aux Américains sur toute la ligne. C'est-à-dire que les actes qui lui étaient reprochés étaient jugés extradables. Je rappelle que les actes qui lui sont reprochés sont grosso modo les actes d'un journaliste d'investigation opérant en Europe, un Australien. Ça, c'est la très 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 mauvaise nouvelle. La toute petite bonne nouvelle qui est tombée et qui nous a fait plaisir pendant quelques minutes, c'est qu'elle a déclaré qu'il n'était pas extradable à cause de sa santé. Il a été diagnostiqué autiste, légèrement autiste, et que pour ces raisons-là, eu égard aux conditions de détention déclarées terribles par un directeur de prison lui-même qui est venu témoigner au procès, il n'était pas extradable. Premièrement, il faut souligner que la juge ne pouvait pas juger autrement parce qu'il y avait déjà eu un précédent, celui de Laurie Love, dont l'état, exactement le même, l'état médical, avait amené le juge à l'époque à dire qu'il n'était pas extradable. Et ça, c'était la bonne nouvelle, puisqu'évidemment, elle a dit qu'il ne sera pas extradé. Elle a ordonné sa libération immédiate, c'est la dernière phrase de son jugement. Et nous sommes en novembre et il est toujours en prison. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de le maintenir en prison tout en ordonnant sa libération, mais ça c'est toute l'affaire Assange, parce qu'elle savait que les Américains allaient faire appel, et donc, en attendant, les Américains ont fait effectivement appel. Alors les Américains ont fait appel non pas sur la totalité du jugement, qui leur était favorable à 99%, mais bien sur le dernier point de détail, si je puis dire, de son état de santé. Ils ont remis en cause donc les rapports médicaux, ils ont remis en cause, y compris la légitimité. Ils ont avancé le fait que le rappel d'ailleurs a été accepté parce que le psychiatre qui a évalué Assange à l'époque avait omis un détail qu'il connaissait, c'est qu'il connaissait l'identité de la mère des enfants de Julian Assange. Et ça a été considéré comme une rétention d'informations de sa part. Donc c'est l'un des arguments forts pour la remise en cause carrément de son rapport médical. La remise en cause de sa légitimité de ce médecin Koppelman est d'autant plus rigolo que Koppelman a déjà été utilisé par ces mêmes avocats américains dans d'autres affaires. Et que ce soit eux qui remettent en cause sa légitimité médicale, c'est l'ironie de toute cette affaire Assange. Et donc l'appel a été accepté, puisqu'il faut d'abord que l'appel soit accepté, puis l'appel a été entendu au mois d'octobre 2021 et sera rendu, on espère, fin 2021, début 2022. Si l'appel est refusé, les motifs de l'appel sont refusés, Julian Assange donc est en principe libre. En principe. Il y a beaucoup de principes dans cette affaire qui émaillent toute cette affaire, parce que c'est vrai que les principes n'ont pas été très respectés tout au long de cette procédure. Probablement les juges prendront le plus longtemps possible pour y répondre, parce que toutes les procédures dans cette affaire ont été étirées dans leur temps au maximum. Ce qui arrive maintenant à une situation où beaucoup de gens pensent qu'une des stratégies de toute cette affaire, c'est même pas de l'extrader vers les États-Unis, ce qui serait pour les Américains cerise sur le gâteau, mais qui se contentent très bien de la situation actuelle, où Julian Assange est silencieux, on ne l'entend plus, où Wikileaks a été plus ou moins paralysé maintenant, et où la souffrance et l'état de santé de Julian Assange se dégradent à vue d'œil, et que finalement, s'il pouvait mourir en prison, ce serait ça de gagner. Il faut rappeler que pendant plusieurs audiences, notamment une l'année dernière, Julian Assange, qui s'est présenté à l'audience, était incapable de prononcer son nom, ou a eu du mal à prononcer son nom et sa date de naissance, tellement il était dans un sale état. Lors de l'appel, qui a eu lieu en octobre, son état ne lui permettait même pas d'assister à son procès. Il a pu se connecter via une connexion vidéo pendant une heure à peu près, visiblement dans un état complètement abattu, suivant de très loin ce qui se passait, dans un état groggy. Alors là, il faut quand même se poser la question, et c'est une chose redondante, c'est comment est-ce qu'un juge, quel qu'il soit, pour peu qu'il ne soit pas totalement complice, peut ne pas réagir lorsqu'il voit un accusé qui lui est amené dans un tel état ? J'ai du mal à m'imaginer trois juges qui seraient de bonne foi voir comme ça un accusé amené dans un état manifestement malade et ayant subi de mauvais traitements. Ça, pour moi, c'est super choquant et pas rassurant du tout quant à l'état de la justice britannique. Qu'il n'y en ait pas un qui se dise « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Dans quel état vous m'amenez l'accusé ?» Comme ça devrait se passer ailleurs, quoi. Je veux dire, tu n'emmènes pas un accusé devant un juge couvert d'hématomes ou je sais pas quoi, et tu ne l'emmènes pas non plus complètement psychologiquement détruit. Si Julian Assange était par par miracle, sauvé, dans le sens où l'appel serait confirmé qu'il ne peut pas être extradé. Julian Assange ne sera donc pas sorti de l'auberge pour autant. On pense par exemple qu'il sera expulsé de l'Angleterre, puisqu'il est australien et que son visa a expiré depuis belle durée. Expulsé vers où ? Vers quel pays ? Est-ce qu'on lui laissera le choix ? Est-ce que le pays où il ira le protégera ? Est-ce que les Américains pourront recommencer une procédure d'extradition, même si c'était l'Australie ? Est-ce qu'un avion qui l'emmènerait quelque part et qui s'arrêterait lors d'une escale ne pourrait pas faire l'objet d'une visite d'agent pour l'enlever ? Ce sont des vraies questions que beaucoup de gens se posent, et des questions sérieuses. La seule solution serait qu'évidemment les États-Unis décident d'abandonner tout simplement de poursuivre cette affaire. Et pour cela, il faut une pression supplémentaire de la part de l'opinion publique. On n'y est pas encore, mais on commence à s'en approcher, je crois. Alors, il y a pas mal de choses qui sont passées cette année, 2021, qui auraient dû remettre en cause pas mal de choses, mais qui, comme d'habitude, ne font que glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard, apparemment. On sait par exemple que le témoin principal, qui est un Islandais, a admis avoir menti à un média islandais qui s'appelle Stundin, dont le journaliste d'ailleurs était présent pendant le procès d'appel à Londres, cherchant à donner le maximum d'interviews et cherchant à contacter les grands médias, parce que son dossier qui comporte 20 000 pages, dit-il, il est à la disposition de tous les grands médias et que pour l'instant apparemment personne ne l'a contacté. Donc il a les preuves, Siggi Thordarson lui a remis tous les chat logs des conversations et tout ce qu'il avait prouvant qu'il a menti. Donc voilà, on sait que le témoin principal a menti, mais voilà, on passe à autre chose. Et on sait aussi, on l'a appris depuis, qu'au mois de septembre, ça c'était au mois de juin 2021, donc le gars admet avoir menti. Et en 2021, il est arrêté par les autorités islandaises pour ses escroqueries sans fin, répétitive en Islande. Il est en prison et, ironie de l'histoire, il est dans une prison de haute sécurité. C'est un petit peu surréaliste parce qu'il a passé un contrat d'immunité avec le FBI, comme si le FBI avait une jurisprudence sur l'Islande. Mais comme le gars est un peu mégalo, un peu psychopathe, beaucoup psychopathe et pas mal criminel sur les bords, on dit qu'il a été jusqu'à imiter la signature de ses propres avocats pour les arnaquer. C'est plus fort que lui. Voilà. Va savoir ce qu'il a cru et comment il a pu croire, et va savoir pourquoi les Américains, enfin va savoir, oui, on comprend bien que dans toute cette affaire, peu importe, c'est juste l'histoire de garder la façade. Le fait qu'aucun grand média n'a parlé de cette affaire, on est quand même, ça fait 6 mois maintenant quasiment qu'on sait, il n'y a toujours rien dans les grands médias, c'est pas comme s'ils ne savaient pas, parce qu'on les a interpellés plus qu'il n'en fallait, donc il y a maintenant, ça y est, la certitude qu'il y a une vraie volonté de ne pas vous informer sur l'affaire Assange. Alors s'il ne vous informe pas sur une affaire aussi importante quant au déroulé de l'affaire, imaginez tout le reste qu'ils vont vous cacher, quoi. C'est du point de vue médiatique, le traitement de l'affaire Assange est une véritable catastrophe. Alors décidément, l'année 2021 aurait été, la fin de l'année 2021 aurait été l'année de tous les rebondissements. 39 députés ont signé une motion demandant au gouvernement d'accorder à Julian Assange l'asile politique, en France évidemment. Alors cette initiative, c'est le fruit d'un long travail hein, en coulisses. J'en suis témoin, j'en suis pas forcément un acteur, mais j'en suis témoin d'un long travail, parce que les députés sont pas faciles à joindre, parce que les députés ont tas de dossiers sur leur bureau, parce que si, parce que ça, mais finalement là, 39, et il paraît que c'est pas fini, il y en a d'autres qui vont se joindre. On n'a pas encore leur nom, mais c'est pas fini. Sur cette question-là, et par rapport à des tas de commentaires que j'ai lus sur Internet, et pour en avoir été un observateur de près des événements, je voudrais saluer les assistants de ces députés qui ont été formidables, qui ont fait un travail très efficace. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai retiré, que ce n'était pas juste une opération publicitaire, et que le député lui-même, en tout cas ceux avec lesquels on a travaillé, avait cette affaire très à cœur. Alors on peut discuter sur la faisabilité de la chose, parce que même si la France... Même si le président de la République devait accorder l'asile à Julian Assange, il ne faut pas oublier que les Anglais, les Britanniques se sont déjà assis une fois sur un asile, c'est celui que lui avait accordé l'Équateur. Donc que la France accorde l'asile politique à Julian Assange, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément remis à la France plutôt qu'aux États-Unis. Mais quand même, la France, c'est pas l'Équateur en termes de poids diplomatique, mais surtout, je crois, moi en tout cas, c'est que si la France... reconnaissait, même, même si le président ne le faisait pas, même si les députés, dans une certaine quantité, on va dire, je pense qu'ils vont y en avoir plus que 39, disent qu'il faut accorder l'asile politique à Julian Assange en France, c'est une reconnaissance implicite que Julian Assange est un prisonnier politique, puisqu'il faut lui accorder l'asile politique. Et ça, c'est un message très fort venant de la France. C'est un message très fort parce que jusqu'à présent, des organisations comme Amnesty International, par exemple, qui prennent la défense de Julian Assange, mais s'obstinent à ne pas le reconnaître comme prisonnier politique, chose qu'ils font avec Navalny, par exemple. Alors que si on devait comparer les deux cas, il est pour moi clair, net et précis que Julian Assange correspond beaucoup plus au profil du prisonnier politique tel qu'exigé par Amnesty que Navalny. Mais bon, là on est en train de parler de géopolitique et de rapports et d'intérêts différents. Donc si c'est pas Amnesty qui le fait, tant pis pour eux, c'est la France qui le fera. Et comme argumentaire, en tout cas j'espère, c'est beaucoup plus fort pour nous, pour ceux qui défendent Julian Assange, et beaucoup plus facile, et c'est un sacré message mondial que d'envoyer celui que la France dit que Julian Assange mérite l'asile politique, donc c'est un bien prisonnier politique.
Sur les fonctions des papiers. Le gouvernement exige le port des papiers. Papier pour travailler, papier pour habiter, papier pour être en règle, papier pour être identifié, papier du véhicule, papier peint, papier à lettres, papier buvard, papier pour se moucher, papier pour se promener. Papier, vos poètes! Papier pour circuler. Papier pour payer. Papier pour vérifier les papiers. Papier pour vérifier les papiers de ceux qui ne devraient pas en avoir. Papier pour avoir des papiers autorisant le port des papiers. C'est profond ça. J'ai papier. Papier pour exister. Papier pour s'essuyer. Papier policier. Papier militaire. Papier à dessin. Papier te refusant des papiers. Papy, yeah. Papier journaux, papier mâché. Papier qui autorise à crever. Papier pour s'exprimer. Papier pour se taire. Papier à rouler. Papier pour assassiner. Papier pour l'égalité. Papier pour la liberté. T'es pas à pied ? Papier interdisant les papiers sur la voie publique. Faux papier. Papier tamponné. Papier laissé passer. Papier d'emballage, papier cadeau. Papier pour arrêter, papier pour s'occuper. Papier pour emmerder ceux qui n'ont pas de papier. Papier pour faire des cocottes en papier. Papier pour déchirer, papier pour imprimer. Papier pour déprimer. Papier pour ficher. Papier pour faire des nappes en papier. Papier, s'il vous plaît. Papier contrôlé.
ahora tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda la América Latina.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La semaine à Cuba.
Une gerbe de fleurs du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro.
La recherche de solutions pour faire reculer la pauvreté sera au cœur des débats du troisième sommet de la CELAC.
Les 10 pays membres de l'ALBA-TCP, l'Alliance bolivarienne des peuples de Nord-Amérique, traité de commerce des peuples, se sont donné rendez-vous à La Havane le 14 décembre 2021. Des délégations de haut niveau de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie, du Nicaragua, de la Dominique, de Sainte-Lucie, d'Antigua-et-Barbuda, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de la Grenade et de Saint-Christophe-et-Niévès se retrouver une nouvelle fois personnellement ce 14 décembre au Palais de la Révolution. Une journée historique, un autre 14 décembre, mais en 2004, Fidel Castro, leader historique de la Révolution cubaine, et Hugo Chavez, leader incontestable de la Révolution bolivarienne au Venezuela, ont fondé ce mécanisme d'intégration solidaire. À son arrivée à La Havane pour le 20e sommet de l'ALBA, le président vénézuélien Nicolas Maduro évoquait la fondation par Fidel Castro et Hugo Chavez de cette initiative visant à l'entraide des pays de la région.
Casi prácticamente a la hora que hace 27 años.
Ce lundi, le 13 décembre, et presque à la même heure, il y a 27 ans, a atterri pour la première fois à Cuba notre cher commandant Hugo Chavez. C'est sur cette même dalle, sur ce même espace, que Chavez et Fidel se sont donné l'accolade qui a fondé toute cette époque de changement de ce 21e siècle.
Hemos venido a esta cumbre de l'alba. Es una cumbre de unión, de solidaridad.
Nous sommes venus à ce sommet de l'ALBA. C'est un sommet d'union, de solidarité, de fraternité. C'est l'alliance bolivarienne pour le peuple de notre Amérique. Une alliance pour la paix, pour l'union, pour l'intégration, pour la solidarité véritable. Une alliance pour la construction du nouveau monde depuis notre identité et notre diversité.
Nicolas Maduro a souligné la façon dont les pays de l'ALBA ont réussi à contrôler le Covid-19, raison pour laquelle il a indiqué qu'il s'agit du premier sommet pour discuter d'un plan économique, politique et social post-pandémie et pour commencer en 2022 fort et uni, a-t-il dit, en faisant allusion au peuple de la région. Sacha Llorente, secrétaire exécutif de l'Alliance bolivarienne pour le peuple de Nord-Amérique, traité de commerce des peuples, a de son côté mis en relief la nécessité de l'intégration et de l'unité. Le contexte post-pandémique appelle à des stratégies communes, a-t-il souligné, au cours d'une conférence de presse préalable au 20e sommet de l'ALBA-TCP dans notre capitale. Sacha Llorente a souligné devant les journalistes accrédités au sommet qu'à l'heure actuelle, il y a des défis qu'aucun pays ne peut relever à lui seul, d'où l'importance de l'intégration. Il a d'autre part reproché au gouvernement des États-Unis d'utiliser la pandémie de Covid-19 comme une arme pour accroître les désaccords et les mesures coercitives contre les pays de la région. Leur doctrine est la doctrine Monroe, a-t-il dit, la nôtre tient des idées de Bolivar et de José Martí. L'ALBA, à la manière de Chavez et de Fidel, est arrivé au 21e siècle pour relever le défi, une fois de plus, de l'unité et de l'intégration face à un scénario complexe qui exige des stratégies communes au nom de l'unité sacrée et tant désirée. Dans son discours d'inauguration du sommet de l'ALBA-TCP au Palais de la Révolution, le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé les membres de ce bloc régional à consolider l'œuvre magnifique fondée par Fidel Castro, leader historique de la Révolution cubaine, et par feu le président vénézuélien Hugo Chavez. Miguel Díaz-Canel a souligné dans son discours les réalisations récentes et les défis des nations membres de ce mécanisme d'intégration solidaire. Il a également souhaité la bienvenue à Sainte-Lucie, qui est revenue à l'Alliance bolivarienne de peuples de Notre-Amérique de commerce des peuples, salué les résultats des récentes élections au Venezuela et au Nicaragua, qui, a-t-il souligné, défient ensemble les politiques d'ingérence des États-Unis. Miguel Díaz-Canel a d'autre part dénoncé le renforcement des plans de domination et l'hégémonie des États-Unis, mais aussi, a-t-il ajouté, les mouvements populaires ont répondu de manière plus articulée. Dans son discours d'inauguration du 20e sommet de l'ALBA-TCP, le président cubain a évoqué l'essence de ce mécanisme d'intégration solidaire.
L'ALBA-TCP nació de la unidad, se alimenta de solidaridad y cooperación y se afirma en el poder de los pueblos para transformar la historia.
L'ALBA-TCP est né de l'unité, se nourrit de solidarité et de coopération et s'affirme dans le pouvoir des peuples pour transformer l'histoire. Au milieu de la pire tempête que le monde ait connue, l'ALBA-TCP n'a pas perdu son cap. Elle a adapté la pratique de la solidarité, principe fondateur de l'Alliance, aux conditions et possibilités de chaque partie, et la coopération mutuelle ne s'est pas fait attendre. Le volcan, dont l'éruption a frappé Saint-Vincent et les Grenadines au pire moment épidémiologique, nous a également donné l'occasion de montrer la puissance de cette solidarité au sein de l'ALBA. Le Venezuela l'a prouvé. Sous la rigueur de la guerre économique à laquelle il est confronté, il a été prêt à partager tout ce qu'il pouvait et il l'a fait avec d'autres États membres de l'Alliance, notamment avec Cuba. Le Nicaragua, la Bolivie, Saint-Vincent et les Grenadines, la Grenade, Saint-Christophe et Nieves, dans des circonstances difficiles, ont envoyé des dons au peuple cubain que nous remercions vivement. Le vaccin que nos scientifiques dévoués ont mis au point sont partagés avec d'autres nations de l'Alliance, tandis que d'éminents professionnels et techniciens cubains de la santé coopèrent dans les domaines des soins de santé.
Sur ce point, le président cubain a appelé les 10 pays membres de l'ALBA à renforcer le bloc et confirmer l'engagement de notre pays envers l'unité et la coopération.
Les ratifico el compromiso de Cuba con la unidad y la promoción de la cooperación y la integración regional.
Je vous réaffirme l'attachement de Cuba à l'unité et à la promotion de la coopération et de l'intégration régionale, au développement de la CELAC et à l'application de la proclamation faisant de l'Amérique latine des Caraïbes une zone de paix. Face aux défis auxquels nous sommes confrontés, Cuba ne cessera pas de chercher à édifier une société socialiste toujours plus juste et humaine, plus solidaire et plus internationaliste. Et vers cet horizon, nous ne pouvons marcher que dans un cadre serré, comme l'argent au cœur des Andes, selon une phrase très graphique de José Martí dans son magistral essai « Notre Amérique ». Fidel et Chavez ont progressé plus que quiconque sur la voie de l'intégration. Nous, leurs humbles disciples, leurs fidèles disciples, nous avons le devoir et l'honneur d'encourager et de renforcer cette œuvre magnifique.
À son tour, le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé au renforcement de l'intégration et des mécanismes économiques entre les pays de l'ALBA-TCP en vue d'un développement partagé. Devant les délégations de haut niveau présentes à La Havane pour le 20e sommet de l'Alliance bolivarienne des peuples de Notre-Amérique, le président Maduro a souligné l'importance de redoubler d'efforts pour articuler un plan global en termes d'économie, de commerce et de finances. À cet égard, le président vénézuélien a plaidé pour la consolidation des mécanismes tels que la Banque de l'Alba et le système unitaire de compensation régionale Sucre, ainsi qu'à progresser dans la mise en œuvre des accords commerciaux et pour la production de tous les biens et services. Le dirigeant vénézuélien a d'autre part condamné les actions de déstabilisation promues par les États-Unis pour miner l'intégration régionale et attaquer les gouvernements légitimes de Cuba, de la Bolivie et du Nicaragua, en incitant à des plans de coup d'État et à des vagues de violence. Nicolas Maduro a salué la réponse digne du peuple cubain à la féroce campagne de déstabilisation lancée à travers les réseaux sociaux pour renverser l'ordre sur l'île et condamner les blocus économiques, commerciaux et financiers que Washington applique contre notre pays depuis 6 décennies déjà. À un autre moment de son discours, le chef d'État a souligné les décisions adoptées au cours de l'année dernière par l'ALBA TCP pour garantir une confrontation réussie de la pandémie de COVID-19 sur la base de la solidarité et de la complémentarité. À cet égard, Nicolas Maduro a reconnu la contribution de Cuba à la lutte contre la pandémie, ainsi que la capacité scientifique de la nation caribéenne dans le développement de 5 vaccins contre le COVID-19. Le président vénézuélien a également souligné le rôle de l'ALBA TCP en tant qu'espace régional permettant de partager une vision géopolitique du monde et de faire entendre la voix collective des pays de la région dans tous les espaces multilatéraux en faveur de la survie de l'espèce humaine. Pour sa part, le président de la Bolivie, Luis Arce, a qualifié d'inacceptables les sanctions unilatérales qui limitent le développement des peuples, surtout en pleine crise sanitaire mondiale. L'imposition de mesures coercitives unilatérales, d'embargo, de blocus économiques et de sanctions est inacceptable dans n'importe quel contexte, mais surtout en période de pandémie, a souligné le président bolivien dans son discours lors du sommet de l'ALBA TCP. Il a ajouté que ces mesures mettaient en danger les populations de ces pays en tronquant leur droit au développement durable. Le 20e sommet de l'ALBA TCP s'est terminé par l'adoption d'accords politiques et d'un plan d'action qui entérine son parcours indépendant pour l'intégration et contre l'ingérence des États-Unis. Tel est le consensus auquel sont parvenus dans cette capitale les dirigeants et les représentants des 10 nations membres de l'Alliance bolivarienne des peuples de Nord-Amérique, traité de commerce des peuples. L'ALBA TCP est l'alternative contre le nouveau colonialisme économique, affirme la déclaration finale résumée par le président cubain Miguel Díaz-Canel. La déclaration rejette ce qu'elle décrit comme des tentatives de l'impérialisme de semer la confusion dans l'esprit de nos peuples et ses mesures coercitives unilatérales, a souligné le dirigeant. La déclaration remercie d'autre part Cuba pour sa contribution aux autres peuples et condamne le blocus que Washington inflige à la plus grande des Antilles et son inclusion sur la liste des pays parrainant le terrorisme, rédigé unilatéralement par les États-Unis. Nous dénonçons les mensonges de l'impérialisme qui prêche la paix et pratique la guerre, souligne le texte, qui exprime également la solidarité avec le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie. Le changement climatique, les migrations et la stratégie post-Covid-19 figurent parmi les questions sur lesquelles le mécanisme entend progresser. La déclaration exprime également l'engagement réitéré de Cuba à collaborer avec les pays membres du bloc, notamment en matière de vaccination contre le coronavirus. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a mis en exergue la coopération entre les pays membres de l'ALBA TCP, l'Alliance bolivarienne des peuples de Nord-Amérique, traité de commerce des peuples, à la clôture du 20e sommet de ce mécanisme d'intégration solidaire.
Y en los casi dos años de enfrentamiento a la terrible pandemia.
Au cours des presque deux années passées à affronter la terrible pandémie de COVID-19, la coopération entre les États membres s'est fait sentir avec son poids de solidarité dans les moments les plus difficiles. En partageant le peu dont chacun disposait, l'Alliance a montré que le soutien mutuel est non seulement nécessaire, mais aussi possible.
Le président Díaz-Canel a souligné qu'alors que nos peuples ont ressenti l'impact de la paralysie économique, les États-Unis et leurs transnationales n'ont pas cessé de piller les ressources naturelles de notre Amérique. Il a d'autre part fustigé l'égoïsme promu par l'idéologie néolibérale, égoïsme qui a rendu impossible une solution commune des problèmes provoqués par la pandémie et le sommet de la démocratie organisé par le président des États-Unis Joe Biden le 9 décembre dernier.
Si los anfitriones de esa cumbre imperial consideraron que excluir algunos de nuestros países de su cita.
Si les hôtes de ces sommets impériaux ont considéré que l'exclusion de certains de nos pays de leur réunion n'était qu'une sanction de plus, laissez-moi vous dire que nous l'avons reçue comme une reconnaissance. Pas même un millier de sanctions unilatérales supplémentaires ne pourront briser la honte et la dignité des peuples vénézuéliens, nicaraguayens et cubains qui ont déjà été trop punis et sanctionnés par ce gendarme mondial pour être effrayé par une énième exclusion.
En nombre de los cubanos, digo que en cada uno de nosotros late la sangre de los caídos por nuestra independencia.
Au nom des Cubains, je dis qu'en chacun de nous bat le sang de ceux qui sont tombés pour notre indépendance, héritiers du courage, de la bravoure, de la moralité et de la conviction des martis, Maceo et Fidel, et des enseignements et des conseils de Raoul. De tous ces gens et de nombreux autres courageux cubains, dont la liste serait infinie, nous avons appris à défendre notre patrie ou à mourir pour elle. En tant que latino-américains, nous nous sentons héritiers de Simon Bolivar, d'Augusto César Sandino, de tous les héros de l'indépendance latino-américaine et d'Hugo Chavez, qui a repris l'héritage de tant de personnes et qui, avec Fidel, a donné une dimension contemporaine à notre aspiration à l'indépendance et à la souveraineté, mais aussi à l'unité et à la solidarité, autant des principes qui rendent le lien de fraternité de l'Alba indéfectible. Les fils et les filles d'Amérique latine, comme Che Guevara aimait à le déclarer, sont des hommes et des femmes libres qui n'hésiteront jamais face à la pression et au chantage. Cette alliance est formée par un groupe des nations prêtes à faire de grands sacrifices pour la dignification et le bonheur de nos peuples. Comptez sur la solidarité de Cuba pour continuer à avancer dans le cadre de nos modestes possibilités au programme de collaboration mis en œuvre et d'autres que nous développerons davantage. Les réalisations des scientifiques cubains en matière de vaccins contre le COVID-19 et les autres candidats vaccins sont au service de l'humanité et notamment de nos peuples frères de l'Amérique latine et les Caraïbes. Le général d'armée Raúl Castro, invité à la clôture du sommet, a participé aux côtés des chefs d'État et de gouvernement et des délégations de haut niveau présentes au sommet.
Au lendemain du 20e sommet de l'ALBA-TCP, le président de l'État plurinational de la Bolivie, Luis Arce, entamait une visite officielle à Cuba pour relancer les relations bilatérales. Au terme des conversations officielles avec son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, le président bolivien a donné des déclarations à la presse.
Nous
sommes en train de relancer nos relations. Après une période où la Bolivie a vécu une dictature, un coup d'État, et finalement, cette visite présentielle a été possible pour entamer un nouveau chemin dans nos relations. Il y a beaucoup de questions sous lesquelles nous pourrions travailler ensemble.
C'est
C'était la semaine à Cuba.
Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, que no nos cambie la emisora. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular. Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay!
Ahora es mejor de hablar.
Ahora es mejor.
Ahora es mejor de hablar.
Quédase tranquilo, yo.
Ahora es mejor de hablar.
Por eso ahora con este zongo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo. Ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así
ya no podrán hablar.
Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar.
Ya no podrán hablar.
Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey.
Ya no podrán hablar.
Ahora vengo, como vengo.
Ahí.
Sigo ahí, por eso me mantengo.
Y ahora vengo, como vengo. Tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo.
Ahora vengo, como vengo.
Suave.
Sigo ahí, por eso me mantengo.
Si a la gente. Si a la gente le encanta mi salsa,
ahora vengo como vengo.
Suave,
sigo ahí, por eso me mantengo.
Mi música le gusta a la mamita y a todas las señoritas.
Sí, sí,
está buena pa' bailar.
Ahora vengo como vengo. Sigo ahí, por eso me mantengo.
Ve que sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante. Y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo,
ay Dios, por eso me mantengo.
A mis hermanos los que crecieron conmigo,
ay Dios, por eso me mantengo.
El pueblo de Cuba ha sido testigo,
ay Dios.